OK, il est actuellement 8h08. Excusez-moi, j'étais déjà...
En discussion.
Ah, ouais, j'étais déjà en train de lancer la chronique. C'est évidemment les situations comme le meurtre qui a eu lieu dans nos rues mardi. C'est des situations qui sont excessivement difficiles, qui comportent une forte lourdeur. On en parlait hier, hein, Gab, toi, ça t'a atteint, puis avec raison.
Oui, mais je veux dire, je suis un peu plus peureuse dans la vie, mais je veux dire, en sortant de la maison, depuis le meurtre, ben je regarde, je fais un petit 360 avant de sortir, OK, c'est bon. Parce que quand on sort, on se lève tellement tôt qu'il fait encore noir, c'est la nuit, je sais pas. Puis j'ai beau être quand même éloignée de ce quartier où ça s'est passé, j'ai encore une petite crainte.
Il y a un climat, définitivement, qui s'est installé en ville. Plusieurs questions également qui ont été suscitées hier parce qu'on a commencé le processus judiciaire. Maxime, t'es allé au palais de justice.
Oui.
Et tu sais ce qui s'est produit, finalement.
Ben, en fait, peut-être vous rappeler que Jean-Léon Pinette, Hervieux, 22 ans, était accusé de meurtre au premier degré. C'est l'accusation la plus grave dans le code criminel. Et également, il fait face à deux chefs d'accusation de tentative de meurtre armée d'un couteau sur deux autres personnes. Et ce qui est particulier, ce qui est ressorti, puis on aura l'occasion d'en reparler avec Maître Fredette dans les prochaines secondes, c'est qu'il venait tout juste de sortir de prison.
Oui, et c'est précisément là qu'on veut intervenir parce que j'ai vu beaucoup de commentaires à l'effet que notre système a ses failles et qu'il aurait probablement dû répertorier cet individu-là puis mieux le suivre à sa sortie de prison. On va en parler avec un expert du milieu juridique, Maître Jean-Marc Fradette. Bon matin.
Bon matin tout le monde.
On est tous dans cet état d'esprit-là. J'imagine que pour toi, Jean-Marc, c'est quelque chose qui fait... Bon, auquel tu es peut-être un peu plus préparé de voir arriver dans la communauté.
Ben, dans une ville comme Alma, c'est quelque chose qui est presque improbable. Hein. Vous comprendrez qu'à Montréal, au centre-ville, ou à Québec, dans le centre-ville, c'est des choses qu'on voit un peu plus souvent, des gens qui sont sous l'effet de la drogue ou de la maladie mentale, qui commettent des crimes. Mais là, à Alma, un meurtre comme celui-là, d'une gratuité totale, c'est certain que les gens dans une petite ville comme Alma, tranquille, dans un quartier quand même tranquille, c'est le quartier du cégep d'Alma, ça. Alors, imaginez-vous que c'est quelque chose de peu probable, donc ça frappe l'imaginaire. Et en même temps, les gens probablement se disent, mais ça aurait pu m'arriver, j'aurais pu être là, sur son chemin, et c'était moi qui aurais frappé, parce qu'on voit que l'homme qui a été frappé n'avait aucun rapport avec lui. Là. C'est comme s'il avait tiré le mauvais numéro.
Oui, mais ce numéro-là, est-ce qu'il était prévisible? C'est un peu la question, je pense, que les gens se posent. On regarde le temps de prison qu'il devait faire. Il sortait de prison. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Du point de vue juridique, là, ce qui s'est produit dans le cadre de notre accusé actuellement, est-ce que c'est correct? Est-ce que du point de vue légal, tout est en norme?
Ben, depuis le meurtre du petit Livernoche à Montréal par Bastien, un individu qui s'appelait Bastien, son nom de famille, depuis ce temps-là, les libérations conditionnelles ont été refondées de manière à être plus sévère parce que à l'époque, quand il arrive un affaire comme ça, que les gens étant en libération conditionnelle, la population, évidemment, veut des réponses et le gouvernement veut des réponses. Donc, les libérations conditionnelles sont beaucoup plus sévères qu'ils l'étaient il y a 5 ou 10 ans. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont échappé dans le cas qui nous occupe, mais on peut penser que les libérations conditionnelles vont avoir des réponses à fournir, surtout relativement au fait que c'est un individu qui est chargé au niveau d'un dossier, mais surtout chargé de dossiers de violence. Par ailleurs, sa problématique du passé, pour un très jeune homme, avoir 70 pages d'antécédents, c'est anormal. Donc, on est face à un individu assez prévisible en termes de récidive. Faudra voir comment le calcul des libérations conditionnelles s'est fait. Il a eu 36 mois, mais il avait fait du préventif. Donc, en mai 2018, lorsqu'il a écopé de son 36 mois, il fallait enlever le nombre de mois qu'il avait fait. Et ça donnait un chiffre. Le chiffre était nécessairement provincial parce qu'il était détenu dans une prison provinciale. Mm-hmm. 2 ans moins un jour, si on calcule le 2/3, il n'aurait pas dû être en liberté au moment du meurtre qui s'est produit cette semaine. Donc, c'est sûr que les libérations conditionnelles, on les blâmera pas à l'avance, là, mais ils ont des réponses à donner au public vis-à-vis d'une situation comme celle-là où l'individu doit, normalement, quand il sort, donner une adresse, une occupation et un moyen d'être contrôlé par les services correctionnels. Parce que quand ils sont libérés avant le temps, il faut savoir qu'ils sont surveillés. Les policiers sont au courant d'où ils restent. Les policiers sont au courant de ses allées et venues et de son travail, s'il y en a un, justement pour vérifier et superviser sa libération conditionnelle. Dans le cas qui nous occupe, il semble qu'il se promenait en ville là, comme un zombie, qui a attaqué d'autres personnes avant d'avoir attaqué finalement cet individu, ce monsieur-là. C'est sûr que on les blâmera pas à l'avance, mais il y a des réponses qui vont être demandées par le gouvernement probablement aujourd'hui. Le ministère de la Sécurité publique va faire enquête afin de déterminer est-ce qu'il y a eu, on l'a échappé celui-là. C'est possible qu'on l'ait échappé. Et dans ces circonstances, il faut que le gouvernement le sache pour que des mesures soient prises.
Maître Fradette, vous avez parlé justement de ce jeune homme qui avait plusieurs antécédents judiciaires. Et ce qui est ressorti également hier au palais de justice, il y a beaucoup de monde qui jasait de ça, entre autres dans le corridor, c'est le fameux rapport Gladue, parce qu'il avait déjà passé devant le juge il y a quelques mois, et on avait parlé de ce rapport Gladue. Qu'est-ce que c'est exactement?
Bon, ça, c'est pertinent comme question parce que, en fait, on veut donner un statut particulier à certaines personnes dans le système judiciaire, particulièrement les autochtones. Le rapport Gladue, du nom là, de la cause qui l'a édicté, c'est un rapport qui est demandé afin de déterminer la provenance de l'individu, dans quelle famille il était, quelle problématique il a connue, drogue, alcool, violence, etc. Et on, grâce à ce rapport, le juge doit en tenir compte pour donner une peine qui ne sera pas nécessairement la même que pour, par exemple, un blanc caucasien avec une vie ordinaire. Alors, on leur fait un traitement spécial parce qu'ils ont eu une vie particulièrement spéciale et défavorisée. C'est ça le rapport Gladue. Et c'est les juges qui demandent ces rapports-là, qui utilisent ces rapports-là pour donner une peine, on va dire, un peu plus appropriée et individualisée à l'individu qui a connu ces problèmes-là. Donc, dans le cas de ce jeune homme de 22 ans, il est clair qu'il est autochtone, il est clair qu'on avait demandé un rapport Gladue pour être en mesure de mieux l'évaluer. Et rappelez-vous, dans le cas du juge Guimond, celui-ci avait, lorsqu'il avait édicté sa peine, avait mentionné... Oui. Que cet homme-là semblait dangereux et qu'il avait, il y avait des risques. Il lui avait donné une bonne peine, quand même 36 mois, c'est quand même pas rien, mais il avait quand même mentionné au surplus qu'il lui apparaissait comme étant dangereux. Malheureusement, le temps lui a donné raison.
Il y a un autre aspect qui m'interpelle, puis je ne sais pas si c'est juste un détail, mais j'imagine qu'à force de représenter des familles, tu pourrais peut-être me lancer sur une piste de réflexion. J'aimerais comprendre, Jean-Marc, comment ça se fait qu'hier, on pouvait nommer la victime et que là, hier, on a demandé un interdit de publication. C'est une volonté de vivre ça dans le privé? Comment que ça peut s'expliquer, ça?
Enfin, on protège les victimes et leur famille, parce que dans le cas qui nous occupe, la victime est décédée, mais il a une famille. Alors, on veut protéger, en fait, les gens autour d'une victime, quand la victime est vivante. On veut protéger la victime, et sinon, si elle n'est pas vivante, c'est le reste de la famille. On veut le protéger de l'opprobre, du questionnement, de se faire défigurer en public. C'est de la pression, déjà, d'être une victime. Si, en plus, tout le monde autour de nous savent que c'est nous la victime, ben ça pose des problèmes. Donc, on a modifié le code criminel en conséquence, et le phénomène de cette semaine qui est arrivé, c'est que les médias sociaux, qui, eux autres, sont pas régis par grandes règles, ben, il y a des gens sur les médias sociaux qui ont mentionné le nom de la victime, puis ça a été repris. Mais en temps normal, la victime n'aurait pas dû être nommée. Vous comprendrez que c'est quand même pas un problème majeur à partir du moment que dans le procès, ça va être public, puis ouais. Tout le monde va finir par le savoir. Mais c'est en fait, pour répondre à votre question, c'est fait pour protéger surtout les membres rapprochés de la victime qui déjà subissent un événement d'une tristesse infinie, hein, pour lequel il n'y a pas de réponse à leurs questions. Ils n'ont pas besoin, en fait, d'être identifiés. Ils vont avoir à vivre quelque chose de terrible dans les semaines qui viennent, les jours et les semaines qui viennent déjà. Donc, le système ne veut pas que tout le monde sache c'est qui. Dans le cas qui nous occupe, il y a eu des médias sociaux qui ont mentionné le nom, puis ça a été repris. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est arrivé comme ça. Mais en temps normal, les victimes ne sont pas nommées, ne doivent pas être nommées par les médias.
Et by the way, je lance ça comme ça pour ceux qui connaîtraient les proches de la victime. Donnez-leur beaucoup d'amour. Hein. On m'a expliqué que ce n'était pas un clan qui faisait face à la mortalité pour la première fois cette année. Alors, c'est vraiment des gens qui doivent être très éprouvés. Alors, honnêtement, là, on n'en parlera pas plus. Ils veulent être dans le privé, mais si vous les connaissez, une dose d'amour supplémentaire, j'imagine, sera très bienvenue.
Bon courage.
Oui. Jean-Marc, je t'amène ailleurs. On commence à voir les pancartes électorales s'afficher dans notre comté. Si, par exemple, il nous prendrait une vilaine envie de vouloir dessiner une petite moustache ou encore d'arracher la pancarte, qu'est-ce qui nous attend?
Une accusation de méfait, ma chère.
Ah ouais?
C'est un méfait que... un méfait, c'est nuire à l'utilisation et à la jouissance paisible d'un bien. Alors, si vous dessinez, vous commettez un méfait, et si vous l'enlevez, ben encore plus, et au surplus, vous pourriez être accusé de vol. Donc, ce n'est pas la bonne chose à faire.
De vol?
Oui, absolument. Si vous volez une pancarte, c'est un vol.
Ah ben, oui. Okay. Fait que ceux qui isolent le cabanon avec des vieilles pancartes, là, ils sont pas dans leurs droits.
Non, pas du tout. Hein? Les moustaches, ben, à proscrire, parce que si vous êtes pris, vous allez être accusé de méfait. Ce serait quand même bête de vous faire un casier judiciaire pour en fait une moustache sur une pancarte.
Ça va jusqu'à un casier, mais c'est quoi? C'est une amende qui vient avec ça?
Oui, c'est une amende et on peut demander une absolution quand on n'a pas d'antécédent afin de ne pas avoir de casier judiciaire. Hmm. Mais c'est quand même mieux de ne pas le faire.
À qui je dessinerais une moustache? on va passer notre tour, je pense. Merci Jean-Marc d'avoir pris le temps de nous éclaircir cette situation-là. Une très, très bonne journée.